Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Capi. Vous avez choisi la fréquence de la paix pour ce nouveau numéro du magazine Étoile. Alors notre invité en chiffre aujourd'hui, ça donne 50 ans d'âge, 30 ans de carrière, 27 employés pour son entreprise, Géopolis Magazine, une dizaine d'interviews avec des personnalités politiques, congolaises, africaines aussi internationales. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le patron de Géopolis Magazine, un magazine spécialisé dans le secteur des mines, créé depuis 2006. Et aussi à côté de cela, Géopolis Hebdo, un magazine d'information générale. Je cite son nom donc, Monsieur Willy Kalenga. Et bonjour à vous.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors une dizaine d'interviews, je viens de l'introduire, avec plusieurs personnalités. Je vais les citer, congolaises, africaines et étrangères. Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, Miko Roy-Itare, qui est un peu le précurseur des télécoms dans notre pays. Christine Lagarde également. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, ça fait un beau palmarès. Vous me dites que vous n'êtes pas trop dans le védétariat, mais avec ça, que vous le vouliez ou non, vous êtes quand même un peu une vedette.
Je ne me considère pas comme ça et c'est peut-être difficile qu'on me croie sur parole. Nous sommes comme ça impliqués dans la production des informations, dans la rétention ou sinon dans la diffusion des nouvelles. Et ça nous met peut-être en présence des personnalités, mais nous ne sommes pas nous ces personnalités. Nous sommes que des médiateurs. Nous sommes le pont sur lequel marchent les gens. Personne ne fait attention au pont sur lequel ils marchent. Seulement si ce pont-là est défaillant, alors il peut comprendre. Mais sinon, nous ne sommes pas nous l'objectif.
C'est ce que vous m'aviez dit hier quand on préparait cette émission, Willy Kalengai. J'ai parlé de Géopolis Magazine. Vous m'expliquez que Géopolis, pour vous, c'est la traduction même du paradoxe congolais. Et ce paradoxe-là vous fascine. Vous créez ce magazine, alors dans quel but ?
Géopolis, c'est un néologisme. Géo comme la terre, polis comme la cité. Nous sommes sur une des terres les plus riches du monde et ça, ce n'est pas une redite. Nous avons dans notre pays l'ensemble de ce qu'on appelle les tableaux de Mendeleïev. Toutes les richesses sont ici. Mais nous avons aussi les cités les plus pauvres du monde. Comment des populations entières peuvent être encore aujourd'hui à la recherche de l'eau potable, alors qu'ils vivent, ils dorment sur des richesses incommensurables, qui sont d'ailleurs les réponses stratégiques mondiales. Nous avons participé en tant que pays, en tant qu'espace, à la solution des grands conflits dans le monde. Nous avons toujours été présents, et je ne vais pas rentrer dans l'histoire, de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui au coltan, jusqu'à aujourd'hui à ce qu'on appelle aujourd'hui le cobalt. Nous avons toujours été présents. Alors comment se fait-il que ce pays-là ait une population la plus pauvre de la planète ? Nous avons dit donc il doit y avoir quelque chose que nous n'avons pas compris.
Est-ce que vous l'avez décelé, cette chose ?
C'est pourquoi nous avons créé Géopolis, comme étant cet espace sur lequel nous allons essayer de réduire les écarts, de poser des questions, de chercher les gaps, pourquoi.
De comprendre.
De comprendre pourquoi nous sommes à ce niveau. Parce que quand vous allez interroger les chefs d'État, vous interrogez la maman au marché, tous les Congolais, du numéro 1 du pays jusqu'au dernier, se plaignent de la pauvreté.
Mais alors Géopolis a 12 ans aujourd'hui, si mes calculs sont bons. Est-ce que vous avez trouvé un début de réponse par rapport à toutes ces interrogations-là ?
Oui, nous avons effectivement un début de réponse. Et c'est la conception que nous avons de notre État. Nous sommes un État qui a été créé comme un compromis mondial. Donc nous avons une double destination, enfin, un double destin. Nous avons une double identité. Nous sommes Congolais, mais nous appartenons aussi au monde. Le monde a mis en place un espace dans lequel le commerce international devait se développer sans entrave. Mais il a fallu que ce commerce tienne compte aussi de la population. La conscience de notre population, les dirigeants, la manière dont la gouvernance a été élaborée, le pays a été exploité pendant très longtemps, mais la conscience politique, elle est relativement jeune. Donc nous avons une conscience politique qui n'est pas encore à la hauteur de l'enjeu de notre richesse. Peut-être un jour ça pourra arriver.
Alors, on va parler de tout ça de Géopolis Magazine. Alors, vous êtes natif de Kolwezi, nous sommes dans l'actuelle province du Lualaba. Vous me confiez que votre vocation professionnelle a été inspirée par vos études commerciales, parce que c'est ça que vous avez fait aux humanités. Qu'est-ce qui vous emmène au journalisme?
Évidemment, mon père il travaille à la GECAMINE, il est comptable. Mon père, c'est mon modèle, c'est ce qu'il fait, moi j'aime. Il aime les choses précises, je l'accompagne souvent dans des heures supplémentaires parce qu'il en fait beaucoup. Quand il fait la comptabilité, il est aux ateliers qu'on appelle AO, Atelier Ouest, et je l'accompagne. Donc je me vois vraiment, et comme je porte le même nom que lui, c'est mon modèle. Donc quand j'arrive aux humanités, je termine les humanités, pour moi, naturellement, c'est l'économie. Donc je quitte Kolwezi, ma ville natale, je vais à Lubumbashi pour des études en économie. Mais vous savez, le journalisme, c'était à moi, je ne le savais pas. C'est là où le mystère de destin, vous pensez avoir une volonté, mais elle est insuffisamment incarnée par vous-même.
Parce que vous me dites, pour vous, vous vous voyez comme économiste, en fait.
Bien sûr, j'ai toujours projeté comme un économiste, d'ailleurs. Mm-hmm. Et j'aime un peu, je passerai vite cette faculté, mais à l'époque, nous sommes dans les partis État. L'université est extrêmement politisée, les inscriptions sont complètement verrouillées. Et pour avoir une place à l'université, c'est vraiment un chemin.
Il faut faire des pieds et des mains.
Et nous n'avons pas, nous, une couverture à ce niveau-là. Donc, en même temps aussi, j'ai quand même pu faire un effort pour quitter et commencer ces études d'économie que je vais interrompre. Mais c'est une période qui correspond aussi aux mutations produites dans le pays. Pendant qu'elles sont interrompues par des raisons que je ne veux pas évoquer ici, je me retrouve donc au chômage. Mais voilà un ami qui a le même parcours que moi, mais lui vient de Kisangani, il vient de Kinshasa, il dit écoute, nous étions très jeunes, nous avions des choix, maintenant que nous n'avons plus la possibilité de soumettre nos choix, qu'est-ce qui va se passer? Faisons ce que nous pouvons. J'ai dit, moi, je ne vois pas ce que je peux faire. Et il me dit, mais pourquoi pas, va un peu à l'ISTI, c'est une école en attendant. Et comme ça, je suis parti simplement, sans y avoir beaucoup pensé. Et j'ai fait mon test d'admission à l'époque, à l'ISTI, qui était une école sous-régionale, et j'ai commencé donc ce journalisme qui n'était pas dans ma projection, mais en réalité qu'il est dans mon destin.
Exactement, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et donc vous intégrez l'ISTI, et déjà en premier graduat, Willy Kalengai, vous commencez à travailler comme stagiaire, comme la plupart des étudiants d'ailleurs.
Absolument.
De l'ISTI et de l'IFASIC,
oui.
Aujourd'hui. Alors votre premier stage se passe au journal Standard. Alors vous l'avez souligné aussi, nous sommes dans un contexte sociopolitique assez mouvementé, les libertés sont ouvertes. Vous faites un reportage qui va vous marquer, un reportage dans un cimetière, et là vous voyez des choses. Vous vous dites, ah non, c'est pas possible. J'aimerais que vous partagiez cette expérience avec nous.
Je suis très jeune, j'ai à peine 20 ans. C'est vrai que j'ai quelques expériences d'université, mais je reste encore très jeune. Et Kinshasa, c'est pas ma ville. Je n'ai pas grandi ici, je ne connais pas les mœurs, les coutumes. Alors j'entre au journal Les Standards, et on me donne un travail qu'on appelle les chiens écrasés. Bon, allez faites-nous un peu le reportage sur l'état de nos cimetières et tout ça. Mais nous sommes en 90, ça signifie que le président Mobutu a fait son discours, les libertés sont en train de revenir, mais dans les libertés, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de valeur morale. Qu'est-ce qui va soutenir? Les partis État étaient un peu le verrou qui soutenait nos instincts collectifs. Là, il n'y a plus. Donc, c'est à ce moment-là que commencent les enterrements avec des fidèles un peu à la vaudou. Donc, je pars effectivement dans presque tous les cimetières. Je commence par le cimetière vers Kitambo, je vais en Binza vers le fond, je vais à la Gombe et je fais mon papier. Je découvre qu'il y a beaucoup de choses. Le cimetière à l'époque du parti État était une destination pour des pratiques occultes, ça je ne veux pas y revenir, ça va peut-être effrayer les gens. Mais j'ai fait mon papier, et je fais mon papier sur le plan moral. J'ai dit que si nous ne faisons pas attention, les multipartismes qui entrent, les libertés que nous allons découvrir, peuvent aussi malheureusement emporter nos valeurs traditionnelles et nos valeurs spirituelles. Ce papier je l'ai écrit, et ce papier va être publié.
On va dire que vous l'avez écrit quasiment innocemment.
Innocemment,
hein?
J'écris le papier, et le papier est publié. Le nonce apostolique de l'époque ici est abonné au journal. Et lui, il lit le journal et il tombe sur ce papier. Il est catholique, il se rend compte bien qu'il y a un problème. Et il envoie le papier
à Rome, au Vatican.
Et le Vatican envoie ça à Radio Vatican. Radio Vatican en fait une émission spéciale. C'est un rebondissement international, c'est mon tout premier papier. Bon, à l'époque, corrigé par mon encadreur du média, Kassongo Bin Nassor. Et bon, voilà, ça fait la joie de mon patron, ça fait la joie du journal, ça fait la joie de tout le monde. Mais moi, je n'en reviens pas, c'est pas possible. Et alors, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que le chemin du professionnalisme, c'est dans la réalité. Et qu'il n'y a pas, d'escalier. Il n'y a que l'état d'esprit qui vous anime, qui vous permet d'arriver à l'objet. Je suis engagé immédiatement. Et...
Parce que vous avez fait la joie de votre patron.
Il était content.
Alors, j'ai envie de parler, vous allez me le permettre. On vous connaît aujourd'hui comme Willy Kalengai. Et il y a aussi un nom qui est beaucoup revenu, c'est Mwembia. Pourquoi aujourd'hui vous faites pratiquement abstraction de ce nom-là?
Alors, je m'appelle William Albert Mwembia Kalengai. Mwembia, c'est le nom de ma famille. C'est le nom de mon père, c'est le nom de notre lignée. Je me suis trouvé indigne de prendre ce nom et de l'exposer aux aléas de ma profession. Je considérais que ce nom-là, je ne le porte pas moi-même, je le porte avec mes frères et mes sœurs et tout ça, et qu'il ne faudrait pas que dans le travers de mon métier, que ce nom-là soit un jour suivi. Il est là, il est sur mon passeport, il est dans tous mes documents scolaires et tout ça. Mais j'ai choisi mon post-nom comme étant celui avec lequel je voudrais me présenter. À ce moment-là, ce post-nom-là, il m'appartient. Il peut devenir ce que l'on veut.
Cache moins de dégâts?
Oui, bien sûr.
Moins un passé trouble?
Non, mais enfin, il n'y a pas de passé trouble, simplement. Oui. Vous savez, ça a commencé à l'université, hein, c'est pas simplement dans la profession.
Absolument, oui. Ce sont vos camarades de classe qui nous ont révélé
ça. Ça a commencé à l'université, moins bien. Les gens ne se tuaient pas directement. Et donc, le nom.
Vous vouliez faire votre nom?
Oui, je voulais faire un nom qui s'appelait Willy Kalengai.
Willy Kalengai. Alors, on a parlé de votre première expérience comme stagiaire au journal Le Standard. Après, se suit un grand parcours. Hein. Vous faites plusieurs journaux de la place, Politique Hebdo, Noir sur Blanc, Le Bâtisseur, Le Soft, Ntsumi, que vous fondez en 96. Qu'est-ce que vous cherchez une fois de plus?
Comme toujours, j'ai toujours pensé qu'on est au service des autres. Et à l'époque, j'ai toujours l'idée qu'il me faut un ancrage, quelque chose qui va véhiculer la vision du monde que je suis en train de comprendre, hein, parce que à l'époque, je ne comprends pas tout. Mais je sens quand même que, au-delà des adhésions multiples, il y a quand même une offre personnelle que je peux mettre à la disposition de notre société. Et c'est comme ça que Ntsumi est une offre qu'on met en place, mais nous sommes dans un contexte de précarité immense, le côté technologique, financier n'est pas là, et c'est pas une société, et nous voulons véhiculer ce qui étaient nos idées de l'époque, les idées de la mesure. Donc, moi, j'ai toujours pensé qu'en toute chose, j'étais dans un monde où il y avait trop d'extrémisme. Nous naviguions entre les radicaux de gauche et les extrémistes de droite, et j'ai toujours été mal à l'aise face aux positions tranchées, et je travaille dans les nuances. Et c'est en cela que Ntsumi a commencé, comme un effort de mettre en place un cadre où les nuances pouvaient être révélées.
Alors, dans tous ces médias-là que vous avez parcourus, ou en tout cas où vous êtes passé, y a-t-il lieu des gens, des journalistes qui vous ont inspiré par l'écriture, par le sens du travail ou quoi que ce soit?
Énormément. J'ai eu beaucoup de modèles. Hein. Je suis un construit de plusieurs modèles. D'abord, il y a Vincent Zouzi Moulamba, qui est le patron de Politique Hebdo. C'est parce qu'il faut faire l'analyse politique, il faut comprendre, avoir une intelligence politique de l'analyse. Et c'est lui, avec Lukou Samenda, professeur Lukou Samenda. Et tous les deux sont déjà partis, hein, malheureusement les deux. Hein. Puis bon, je tombe dans la grande école de l'époque, c'est les softs. La grande école de l'époque, Kinke Moulumba, c'est un peu comme... on peut dire, dans notre métier à l'époque, travailler au soft, c'était le graal de la presse. Donc, je suis donc entré au soft, et là, j'ai découvert des plumes comme Kideba Pokames. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écrit aussi mieux que lui, un éditorialiste de talent. Je suis allé au Bâtisseur. Les Bâtisseurs, c'était mon inclinaison économique. Maintenant, quand je passe à l'audiovisuel, nous avons un modèle devant nous, un modèle vivant. C'est Kibambi Shinto qui m'inspire. Et nous avons un modèle comme Mwanda Makoso, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et puis, il y a Kasongo Mwema Yamba Yamba, à l'époque aussi. Donc, je suis un peu le produit de plusieurs synthèses.
Le produit de plusieurs synthèses. Alors, on a aussi d'autres qui sont le produit de plusieurs synthèses, dont Willy Kalengai. Alors, ce matin, on s'est prêté à un jeu plutôt amusant. On a recueilli donc des témoignages des gens qui vous connaissent, des gens qui ont travaillé avec vous. Donc, je vous propose de les écouter et puis on commentera juste après.
Willy Kalengai, c'est quelqu'un de très ouvert, de très spontané, de très direct aussi. C'est quelqu'un, un grand travailleur, quelqu'un qui a des idées. Je le considère, Willy, comme un grand esprit. Les grands courants de pensée, Willy vous en parle avec une aisance parfois assez déconcertante. C'est quelqu'un qui a ouvert les portes à beaucoup de personnes par ses contacts, ses relations et tout. Nous avons engagé beaucoup de projets ensemble. On a créé des journaux, des magazines. Nous avons été dans une association assez pionnière à l'époque, il y a une vingtaine d'années, qui regroupait les journalistes qui évoluaient dans la promotion de la paix et à travers les médias. Bref, je dirais que Willy, c'est quelqu'un qu'il faut avoir avec soi.
La première rencontre, c'était à l'ICI en tant qu'étudiant. Et puis, nous avons créé quantité d'entreprises et d'associations ensemble. Et d'ailleurs, Géopolis, la dernière entreprise, là, jusqu'à aujourd'hui, est née dans mon salon. J'ai travaillé avec lui en antenne A également, où nous avons lancé le service des informations. C'était la première expérience d'information par une chaîne privée dans ce pays. Antenne A, Géopolis, ICI, Liberty Magazine, Écho de la Femme, Centre de Développement pour la Femme, Team Light, et j'en oublie. Willy Kalenaï, c'est un homme peu commun, un homme qui est surtout caractérisé par une grande intelligence, et c'est une intelligence prospective. Willy a toujours un coup d'avance. Je crois que s'il avait joué aux échecs, il serait sûrement dans la même sphère que Kasparov. Il sait voir ce que sera le dossier sur lequel il travaille longtemps à l'avance, et qui fait que parfois, on peut ne pas le comprendre, mais lui sait toujours où il va, et il s'arrange toujours pour y arriver. Et pour moi, Willy, c'est un mentor, un homme qui sait détecter les talents, détecter les intelligences et puis les canaliser pour les amener quelque part.
Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Je suis ému, hein. Vous savez, je n'ai pas l'habitude qu'on parle de moi. Je suis un jardin secret pour moi-même. Hein. Parfois, je me cherche moi-même, je ne me trouve pas là où je me suis caché. Et c'est des pans entiers de ma vie qui sont là révélés. Et Dieu merci, c'est révélé dans la sphère des activités. Je ne me vois que comme un homme d'action. Je crois que action-réflexion peuvent se résumer. C'est le couple de ma vie. Donc j'ai une réflexion, elle doit aboutir à une action, et l'action doit arriver à une théorie, à une valeur, à une compréhension du monde. C'est vrai, c'est leur façon de voir les choses.
Merci donc à vous tous qui nous rejoignez pour la suite du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui Willy Kalenaï, journaliste, patron de Géopolis Magazine et Géopolis Hebdo. Alors, on va parler dans la deuxième partie de cette émission, on va parler de la suite de votre carrière. En 95, vous êtes recruté par Antenne A, vous l'avez mentionné, la première chaîne privée, et vous êtes le premier journaliste, je dis bien journaliste, à être engagé, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des animateurs. Alors, c'est aussi une autre expérience, une grande expérience, parce que vous avez comme charge de mettre en place le desk information.
Évidemment, j'arrive en Antenne A sur une réflexion, parce que je suis aussi un bon téléspectateur, je suis la chaîne. Je me dis, bon, j'ai fait 5 ans dans la presse écrite, je crois que j'ai suffisamment d'expérience. Maintenant, il y a un autre média, c'est la télévision. Je vais aller à la télévision. C'était clair dans ma tête, je n'ai jamais douté un seul instant de ce choix. Donc j'arrive en Antenne A et je me rends compte que, bon, c'est une chaîne de divertissement essentiellement. Il y a un peu de sport, de musique, de films, ben, ça ne suffit pas. Et nous commençons donc, je commence d'abord à travailler, j'ai mis en place une première émission qui s'appelle Métier du Monde. Donc c'est une émission de reportage. Chaque jour je présente un métier et ça me permet de maintenir les techniques de collecte, de traitement de l'information.
C'est même être au plus près de l'information avec son
dans
public.
Dans tous les métiers. Et oui. Donc, j'ai fait comme ça de 95 à 97. Donc j'ai fait à peu près une centaine d'émissions. Et en 97, c'est les changements. Un changement profond.
Changement politique.
Politique, je vous entends. En 89, je suis à l'université de Kinshasa. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous faisons une conférence d'étudiants à l'époque. Nous appelons la conférence d'étudiants. Nous disons, le changement est irréversible, mais quelle sera sa forme? Dans quelle proportion il va toucher nos fondamentaux? Et la plupart de ceux qui étaient avec moi à cette conférence-là sont aujourd'hui dans les structures de l'État aujourd'hui. Donc j'ai toujours pensé que le changement était inévitable. Quand il arrive en 97, je suis donc ici, la FDEL arrive dans le pays, et la FDEL, c'est une révolution, et de toutes les révolutions doivent d'abord s'approprier les moyens de communication.
Dans les médias.
Dans les médias. Et la FDEL convoque tout ce qu'il y a comme médias à l'époque à l'intercontinental. Et nous arrivons là-bas, ils disent, écoutez, on va tout vous fermer. Ils disent, non, on ne va pas nous fermer. Comment vous allez vous faire connaître auprès de la population? Vous devez ouvrir dans nos médias des espaces où vous communiquez. Voilà, ainsi, je commence donc à penser qu'il est important qu'il y ait une vision avant d'arriver à l'action du journal télévisé en 97, dont j'ai créé l'émission Droit à la parole.
Droit à la parole.
Droit à la parole, qui arrive comme une réponse de la chaîne à l'appel de la nation.
Vous m'avez dit que Droit à la parole a été créé sous la pression du nouveau régime.
Bien sûr, parce que comment on allait faire? Sinon, ils nous fermaient. Ils disent, non, pourquoi vous allez nous fermer? Nous allons vous donner un espace. Et cet espace-là, vous allez venir y parler. Et d'ailleurs, la première émission, nous la faisons de quelle manière? C'est la FDEL est à l'Université de Kinshasa. La FDEL fait une conférence de presse, une conférence publique. La conférence dégénère. Les étudiants ont posé des questions, mais ils n'ont pas eu le temps, la patience d'entendre des réponses. Alors quand je rentre, moi, je suis le seul journaliste qui couvre ça. J'ai donc les images. J'ai dit, non, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Alors, vous avez les questions, vous n'avez pas donné les réponses. Je vous reçois dans mon studio, je vous redonne les questions des étudiants, vous y répondez. Un premier montage va se faire à ce niveau-là. Et puis, bon, les émissions vont continuer. Je recevrai l'apôtre Mutombo, je recevrai Vital Kamerhe, je recevrai des politiques. Mais le plus important, c'était comment nous adapter à ce qui venait d'arriver, sans pour autant nous renier nos fondamentaux. Il fallait donner leur cadre. Donc, j'ai donc proposé à la chaîne d'accepter d'ouvrir un peu ce cadre politique. Le droit à la parole a commencé et ça a été une très bonne idée.
Alors, vous faites en ce moment-là la rencontre de plusieurs hommes politiques, on va dire des personnalités de notre pays en général. Vous assistez aussi à la réunion de Sand City en Afrique du Sud. Est-ce que dans le parcours du journaliste que vous êtes, ça vous marque? Est-ce que vous voyez votre métier différemment?
Absolument. La politique, c'est, comme disait Edouard Balladur, c'est un champ clos d'intérêt. Et la politique ne laisse personne indifférent. La politique vous structure, la politique vous conditionne. Maintenant, les conditionnements de la politique dépendent de ce que vous êtes vous-même. Ce que vous devenez au travers de notre métier nous permet d'accéder à la sphère politique. Mais nous ne sommes pas des politiques. Vous voyez, c'est peut-être ça la confusion. Il ne faut jamais qu'un journaliste pense qu'il est politique parce qu'il est à tu et à toi avec les hommes politiques. Les hommes politiques, vous connaissez une personne, mais il n'est jamais une personne. C'est toujours un ensemble, c'est un groupe. Un homme politique, c'est d'abord le symbole vivant d'un groupe, d'une communauté, des idées, des idéologies. Derrière lui, il y a des intérêts. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas, qui le représentent lui. Vous avez l'impression de maîtriser la personne, mais en réalité, vous ne maîtrisez jamais un homme politique parce qu'il est en représentation. Il porte les idéaux, les mutations d'un autre groupe. Être politique, c'est accepter de donner sa vie pour les intérêts d'un groupe.
Comment on reste impartial quand on sait que je suis un peu dans les secrets des dieux, mais mon devoir ou mon travail en tant que journaliste, c'est de dire la vérité, de dire les faits.
Je vous ai dit que le journaliste doit être jugé sur sa production. Quand on lit mon journal, quand on suit mon émission, quand on suit les infos que je donne, c'est en cela que je dois être impartial dans l'expression de mon travail. Quand je suis devant les micros et que je dois donner une information, même si elle concerne mon ami, même si elle concerne mon frère ou mon père, je dois obéir aux critères de présélection, aux critères qui n'ont rien à voir avec l'émotion, qui m'ont été enseignés. C'est cela que nous devons faire, rester professionnels.
Alors, on va revenir maintenant à Géopolis Magazine que vous créez en 2006, mais parce que déjà en 2002, si je ne me trompe pas, il y a la promulgation de la loi du code minier. Qu'est-ce que vous entrevoyez?
Vous voyez,
par rapport à 2002, 2006 et aujourd'hui,
voilà,
2018.
Hein. Je suis un enfant de la Gécamine, donc j'ai grandi avec les bruits des bennes, je connais la poussière de l'extraction minière, je connais ce que ça peut avoir comme effet sur la vie des gens. Alors, la production minière dans notre pays était faite par des sociétés d'État. Et quand nous arrivons après 98, après le changement, on se rend compte que toutes les sociétés d'État sont presque en faillite. Nous n'avons plus de production minière et pourtant nos richesses sont encore intactes. Par une réforme essentielle, une des plus grandes réformes qui était faite dans ce pays, on fait un code minier. Même si par ailleurs, la réforme, on peut en discuter du contenu. Le code minier, ça permet aux capitaux étrangers, aux privés, d'entrer dans un secteur qui était un secteur totalement laissé aux mains de l'État. Et moi, je sens déjà que, parce qu'il y aura de nouveaux acteurs, parce qu'il y aura de nouvelles sociétés, il y aura donc de nouvelles structurations, des villes peuvent naître. Vous savez, une mine, c'est toujours une ville. Hein. Des villes peuvent naître, des villages peuvent disparaître. Parce que le code minier impose aux sociétés, là où vous avez trouvé des minerais, mais s'il y a un village, vous le déplacez. Vous voyez, donc, l'activité minière est une activité profonde. Elle reste des racines. Elle change notre rapport à l'histoire.
Oui.
Rapport à l'histoire, même à l'identité. Je dis que je suis de Colwezi, mais je vous dis, la maison où j'ai eu mon certificat d'école primaire, quand je suis parti il y a un mois, elle n'existe plus. C'est déjà une mine, parce qu'elle a complètement été évacuée. Ça change. Alors, quand nous arrivons, évidemment, entre 2002 et 2005, ce sont les combats pour la mise en forme de cette loi. Et je me rends compte que nous allons vers l'application de la loi. La première entreprise qui va se créer sous le modèle du code minier va commencer et la presse ne connaît pas ça. Alors je dis non, il faut quand même qu'il y ait un cadre qui puisse capter cette mutation, qui puisse maîtriser les multinationales, mais surtout aussi donner parole à ceux qui vont subir ces changements.
Exactement.
Voilà pourquoi nous
avons créé les populations locales. Autochtones. Et vous me dites, Géopolis, vous emmenez dans les fins fonds du Congo.
C'est pas facile de dire tout ce qu'on a fait, mais vous savez, en 2006, le premier reportage que nous faisons pour Géopolis, c'est Diokopunda. Le pays était connu sur deux titres. On connaissait du Congo et la capitale Kinshasa, bien sûr, et les chefs-lieux des provinces. On ne connaissait pas le territoire. Et avec la guerre de l'AFDEL, on a commencé à connaître certaines petites villes des provinces. Mais avec les secteurs miniers, on est allé dans les territoires, dans les localités. Parce que les minéraux ne sont pas dans les centres-villes.
Vous y avez été vous-même?
Bien sûr, à Diokopunda, j'ai été à Sakania, j'étais à Tshibwe, à Kamoto, à Kipushi, à Bunia. Donc c'est des endroits qui en réalité n'étaient pas très connus dans les grands publics.
Oui.
Alors là, les secteurs miniers nous permettent d'aller jusque là où il y a l'exploitation. Alors nous avons comme ça commencé à couvrir l'ensemble des exploitations qui se mettaient en place dans le pays, mais surtout aussi à nous poser la question, quel type de société nous allons avoir maintenant dans le Congo, partant de l'idée que le paradoxe congolais est en train d'être résolu. Maintenant nous pourrons avoir des moyens pour avoir une société équilibrée, où le minimum va être redistribué aux Congolais. J'avais cet espoir-là. Moi, je pense que l'exploitation minière dans notre pays doit correspondre à la mise en place d'un fonds souverain. Nous devons savoir que les minéraux qui sont exploités sont des ressources épuisables et que dans 100 ans, dans 1000 ans peut-être, si le Congo existe encore, et je crois que le Congo est éternel, et je pense que les enfants qui viendront plus tard, les générations futures, doivent trouver, s'ils ne trouvent pas du diamant, ils ne trouvent pas du cuivre dans les sous-sols, qu'ils trouvent les symboles de ce que le cuivre a été. Ces symboles-là, c'est quoi? Il faut que la richesse qui vient de là, elle ne nous appartient pas qu'à nous, elle n'appartient pas à un mandat, elle n'appartient pas à une génération. C'est une richesse qui appartient à tous les Congolais, passé et à venir.
Oui.
Alors quand vous gérez les biens pour l'avenir, vous les gérez avec une anticipation. C'est pour ça que j'ai dit, je plaide depuis 2006 pour la mise en place d'un fonds souverain où une grande partie des ressources, des ressources financières issues des minéraux vont être mises dans un fonds qui va être géré pour que nous ne puissions pas tout consommer, mais qu'on garde pour les enfants qui vont venir. Nous avons la possibilité aujourd'hui de construire une civilisation qui soit généreuse, équitable, pas seulement avec elle-même, mais avec aussi la postérité. Ça serait quand même nos enfants. C'est notre prolongation. Et ils vont se reconnaître dans notre société.
Alors ce plaidoyer, vous le faites auprès de qui, Willy Kalingaï? Parce que vous m'avez dit aussi que vous avez également fait le plaidoyer pour que la RDC intègre Litier, si je ne me trompe pas, l'initiative pour la transparence des entreprises.
Pour la transparence dans le secteur minier.
Dans le secteur, exactement. Voilà. Vous faites le plaidoyer auprès de qui?
Bon, notre plaidoyer, c'est notre écriture, c'est notre voix, c'est notre micro. Nous faisons parler des sources. Dans le cadre de Géopolis, je ne vous ai pas dit, nous avons mis en place ce qu'on appelle Géopolis Forum. C'est une structure un peu événementielle. Nous organisons un peu tous les trimestres des conférences où nous invitons sur une problématique donnée
précise, oui.
l'ensemble des intervenants. Nous l'avons fait à Lubumbashi, on l'a fait ici, on le fait. Ben, il est vrai que ces derniers temps, ces initiatives sont récupérées par plusieurs autres personnes et ça ne fait que nous réjouir. Donc nous écrivons, quand nous avons l'occasion de parler aux autorités, nous le faisons, nous en parlons. À titre personnel, je le fais, mais à titre aussi d'entreprise, je participe à beaucoup de conférences internationales, notamment le Mining Indaba de Cape Town chaque mois de février. Et chaque fois, quand je participe à un panel, je ne reviens sur ça. Je dis, l'argent qui est dans la caisse, qui vient des mines, doit servir à un fonds souverain. Et l'idée n'a pas été rejetée, parce que il y a déjà 2-3 ans que l'on en parle dans le pays.
Ça, c'est vraiment la casquette de l'économiste vous êtes aussi. Alors, Willy Kalenga, vous l'avez dit vous-même, chef d'entreprise, Géopolis Magazine, Géopolis Hebdo, Géopolis Forum. Vous engagez 27 personnes. C'est une vraie entreprise. Quels sont les projets de Willy Kalenga et comment vous entrevoyez la suite? On vous verra peut-être en politique à côté de vos amis. Est-ce que vous continuerez comme journaliste? Est-ce que vous serez ce coach-là, justement, dont la jeune génération a besoin pour bien évoluer dans son métier?
Je ne le sais pas. Je ne le sais pas encore maintenant, parce que je voudrais dire que je construis cet avenir au jour le jour, petit à petit. Ce qui est vrai, c'est que, et j'aimerais bien qu'on le dise définitivement, je ne suis pas un homme politique. Mais je peux servir ma nation, je peux servir mon pays. Je peux servir le pays mais pas dans les méandres politiques. J'ai beaucoup de respect pour les hommes politiques. Je vous ai dit combien je les respecte. Mais en ce qui concerne Géopolis, je crois que il est temps peut-être venu pour muter vers une autre sphère d'expression. Et je travaille sur un projet, c'est peut-être d'avoir Géopolis Télévision.
Géopolis Télévision.
Voilà.
Vous venez de me surprendre. Merci beaucoup à vous, Willy Kalenga. C'était un plaisir de partager ce petit instant avec vous. Vous étiez notre invité pour le magazine Étoile. Merci infiniment à Jean-Marc Matouaki qui a contribué à cette émission. Merci aussi à nos confrères journalistes qui ont accepté de témoigner pour notre invité. On se donne rendez-vous avec vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Étoile. Sinon, pour l'instant, restez avec nous sur Radio Cap.